Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour. Alors, lors du cours de la semaine passée, j'ai développé certains éléments, paramètres physiques et bases neurophysiologiques mis en œuvre dans le processus de localisation des sources sonores basse fréquence dans le plan horizontal dit plan azimutal. Trois paramètres sonores, d'une façon générale, sont mis à profit par le système auditif pour localiser une source sonore dans l'espace. L'un, temporel. Il se fonde sur le délai temporel entre les temps d'arrivée d'une onde sonore venant d'une source à l'oreille la plus proche, qui va être dite ipsilatérale par rapport à la source, et à l'oreille la plus distante, dite contralatérale. Le second paramètre est un paramètre d'intensité. Il se fonde sur la disparité de l'intensité sonore qui parvient à l'oreille la plus proche de la source, l'oreille ipsilatérale, versus à l'oreille la plus distante, l'oreille contralatérale. Le troisième paramètre utilise le contenu spectral des messages sonores. Les deux premiers paramètres font donc appel à une écoute qui met en jeu les deux oreilles, écoute dite binaurale, contrairement pour l'essentiel au troisième. Quel que soit le paramètre sonore mis en jeu, la clé de la localisation des sources sonores se trouve dans l'interaction des ondes sonores avec les diverses structures anatomiques qu'elles rencontrent avant de gagner le tympan. D'où l'idée de fonction de transfert de ces structures. Cela m'a amené à discuter le comportement des ondes sonores lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Réflexion, absorption, diffraction. La longueur d'onde de l'onde sonore, son angle d'incidence par rapport à l'obstacle et la nature même des matériaux rencontrés conditionnent la propagation des ondes. L'essentiel du cours a porté donc sur la localisation des sources basses fréquentes dans le plan azimutal utilisant comme paramètre le délai de temps d'arrivée des ondes sonores à l'une et l'autre oreille. Ceci nous a amené à discuter principalement la diffraction des ondes qui fait référence au fait qu'une onde diffractée est une onde qui paraît contourner les objets. Et cette diffraction est le fait d'ondes sonores dont la longueur d'onde est supérieure à celle des objets. Ainsi, les sons de basse fréquence qui ont une grande longueur d'onde sont préférentiellement diffractée par les objets. C'est ce que vous voyez en A et B, en A où il y a ce petit orifice et en B le petit objet. Et donc, il y a diffraction des ondes. Nous avons vu comment Lord Rayleigh, en 1907, avait posé le principe de la localisation des sources sonores dans le plan horizontal ou azimutal par rapport à l'axe médian azimut 0, donc qui passe entre les deux oreilles, à même distance entre les deux oreilles, au niveau du nez. Deux modes de traitement différents a-t-il proposé selon la fréquence de l'onde sonore. Ceci nous a amené à introduire la notion de sensibilité azimutale, ou mieux, d'angle azimutal minimal audible, ou de seuil azimutal angulaire audible. Et nous avons vu les expériences qui ont fondé le fait que pour les sources basse fréquence, ce qui est utilisé pour les localiser comme paramètre, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est le paramètre de délai de temps d'arrivée de l'onde sonore à l'une et l'autre oreille. Je reviendrai sur ce schéma. Ceci, pour l'instant, indique une sonde sonore située de ce côté et qui va donc gagner l'oreille ipsilatérale et, avec un certain délai de temps, l'oreille contralatérale. Nous avons vu l'hypothèse émise par Jeffries en 1948 en ce qui concerne la localisation des sources basse fréquence dans le plan azimutal et qui stipule que la localisation repose sur le délai temporel interoral. Elle consiste, selon lui, en la transformation du délai de temps acoustique en une information neuronale qui se traduit sous la forme d'un gradient spatial neuronal. Le délai temporel, en anglais ITD, le délai temporel acoustique d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille, est maximal lorsque la source est située à la position azimutale 90, c'est-à-dire la plus proche d'une oreille, d'une des deux oreilles. Il est minimal lorsque la source est située à l'azimut 0. L'hypothèse de Jeffries pose l'existence de neurones que l'on va appeler binauraux, c'est-à-dire l'existence de neurones qui reçoivent une information venant de chacune des deux oreilles, ces informations étant elles-mêmes monaurales. Alors, ces neurones binauraux ne déchargent que lorsque l'information qui leur parvient de l'une et l'autre oreille par les neurones monauraux, information, puisqu'il s'agit de basse fréquence, qui se manifeste sous la forme de potentiel d'action synchronisé au son, il décharge quand ces potentiels d'action leur arrivent simultanément. En d'autres termes, lorsqu'il y a coïncidence des décharges de potentiels d'action qui arrivent aux neurones binauraux. On parle de neurones binauraux détecteurs de coïncidences. Alors, ces neurones binauraux détecteurs de coïncidences sont donc le lieu de la transformation d'une information de position dans le plan horizontal en une information qui intègre des données temporelles. Les détecteurs de coïncidences sont organisés selon un gradient spatial, gradient qui est corrélé au délai temporel pour lequel il présente une sensibilité maximale. Jeffries y ajoutait le mécanisme sous-jacent au fonctionnement de ce circuit, à savoir que pour lui, les neurones afférents mononeuraux qui se projettent sur les détecteurs de coïncidences étaient porteurs de branches axonales qui sont figurées ici, et je vais y revenir, de tailles différentes, graduellement ordonnées spatialement, croissant dans un sens et décroissant dans l'autre. Plus les axones d'un neurone sont longs, plus le temps que mettent les potentiels d'action à les parcourir l'est aussi. De sorte que, grâce à ce système de branches, on avait en quelque sorte un délai temporel acoustique qui pouvait être compensé par un délai temporel. Alors, dans la localisation des sources basse fréquence dans le plan azimutal, c'est la structure du complexe olivo-supérieur qui est contralatéral à la source qui répond. Alors, la coïncidence, elle se trouve possible par l'existence même de ces terminaisons axonales branchées de tailles différentes qui vont permettre pour tout un flux nerveux de venir d'être transféré un détecteur de coïncidence, et si les potentiels d'action, je vous le rappelle, venant du côté ipsilatéral et contralatéral arrivent au même instant, le détecteur de coïncidence va décharger. Alors, le paramètre important de cette théorie était l'existence d'une gamme de longueurs d'axones qui introduisait un ensemble de délais de lignes. Alors, revenons aux longueurs d'onde de la source sonore. Plus la tête est grande, plus les fréquences qui vont être diffractées par la tête sont faibles. Mais aussi, plus le délai temporel d'une onde qui va d'un côté à l'autre de la tête est grand, de sorte que la précision de la localisation de la source au plan azimutal devient elle aussi plus élevée. Alors, pour l'instant, j'ai mis de côté les paramètres de vitesse de propagation de l'onde sonore qui pèse sur cette localisation de délai temporel. J'y reviendrai dans un autre cours. Alors, Bon, voyons maintenant ces détecteurs de coïncidences. Alors, nous nous sommes intéressés aux bases neurophysiologiques de cette détection de délai interoral. Et nous avons vu qu'il existait, en écho à la théorie duplex de Lord Rayleigh, une organisation des circuits distincts au niveau du tronc cérébral pour déceler les délais temporels et les délais d'intensité. Alors, nous nous sommes bien sûr intéressés aux structures mises en jeu par les délais temporels, structures qui, dans un premier temps, ont été étudiées, je vous le rappelle, par Goldberg chez le chien, qui a montré que ces neurones, des neurones qui détectent le délai temporel interoral, se trouvaient au niveau du complexe olivaire supérieur, au niveau du noyau olivaire supérieur latéral. Et puis, ce champ a quitté l'étude des mammifères pour se porter sur l'étude des oiseaux. La chouette effraie, par Konitschi et Kunst, et le poulet par Rubel. Chez l'oiseau aussi, il existe des neurones binauraux qui se comportent comme des détecteurs de coïncidences temporelles. Dans une structure dont on peut dire en première approximation qu'elle est l'équivalent de l'olive supérieure médiane, excusez-moi, je crains d'avoir parlé tout à l'heure de la latérale au lieu de la médiane. Pour le délai de temps, c'est l'olive supérieure médiane des mammifères et qui, chez l'oiseau, est appelé noyau laminaire. Qu'il s'agisse des mammifères ou de l'oiseau, que l'on ait affaire à l'olive supérieure médiane ou le noyau laminaire, ces détecteurs de coïncidence sont des neurones bipolaires fusiformes. Sur les dendrites desquels, ici au niveau de l'olive supérieure moyenne, font synapse d'un côté des afférences venant de l'oreille ipsilatérale et de l'autre de l'oreille contralatérale. Alors, au passage, nous avons vu, je n'y reviens pas, le rôle des conductances potassiques dépendantes du voltage pour obtenir des potentiels d'action extrêmement précis au plan temporel dans leur décharge dans ce circuit. Puis nous avons vu que chez l'oiseau, chez le poulet, il y a bien une base anatomique pour la théorie de Jeffries, c'est-à-dire qu'au niveau des neurones détecteurs de coïncidence présents dans le noyau laminaire, on peut mettre en évidence des terminaisons axonales dont la taille est graduellement croissante. Alors, ensuite de ça, j'ai terminé par un point qui est l'objet de controverses et sur lequel j'aimerais revenir un tout petit peu, qui est le fait que si les résultats, pour l'instant, paraissent bien assis en ce qui concerne donc le rôle du noyau laminaire qui reçoit, pense-t-on, des afférences excitatrices des deux côtés, bien qu'il y ait un certain nombre de neurones inhibiteurs, mais on pense pour l'instant des afférences excitatrices des deux côtés, eh bien, certains ont montré, s'il s'agit du groupe de Benedict Gross et de McAlpine, chez la gerbille, qu'il pourrait en être autrement au niveau de l'olive supérieure médiane et qu'interviendrait le rôle d'inhibition de type glycinergique. Alors, Vous voyez ici le tracé en haut qui va seul nous intéresser, qui correspond au taux de décharge en fonction, en abscisse, du délai temporel interoral, dit ITD en anglais. En bleu, une situation contrôle. En rouge, lorsque les tranches cérébrales sur lesquelles on mesure les décharges de ces neurones de l'olive supérieure médiane ont été traitées par la strychnine qui inhibe le circuit glycinergique. Eh bien, faisaient remarquer ces auteurs, le pic, d'une part, il y a une augmentation de la décharge en rouge par rapport en bleu, et puis le pic s'est déplacé. Alors, l'objet de la controverse me permet de revenir sur un point. Quel est véritablement le mode de décharge de ces neurones détecteurs de coïncidence dans l'olive supérieure médiane? Eh bien, leur composante de décharge est en réalité double. Il y a d'abord une variation sinusoïdale de la décharge des potentiels d'action de ces neurones. Elle correspond à la composition des deux ondes synchrones avec le son qui lui parviennent du côté ipsi et contralatéral. Ensuite, il y a un pic de décharge qui n'est présent que de façon transitoire lorsqu'apparaît le signal de délai de temps au niveau de ce détecteur de coïncidence. Eh bien, faisaient remarquer Joris et Yin dans ce commentaire, si la strychnine, c'est-à-dire s'il y avait un rôle majeur de l'inhibition glycinergique, on devrait observer un glissement de tous les pics en fonction du délai temporel interoral. Eh bien, ont pointé les auteurs, et d'après ce seul profil qui existe, leur interprétation ne paraît en tout cas pas discutable, mais comme ils font eux-mêmes remarquer, il n'y a qu'un seul profil qui est montré, une seule décharge, eh bien font-ils remarquer, les deux pics latéraux n'ont pas bougé, a bougé le pic central. Par conséquent, l'objet de la discussion est le fait que le circuit inhibiteur glycinergique étudié ici pourrait n'avoir un rôle que sur la détection de la mise en place de ce délai, c'est-à-dire n'avoir un rôle que pour la détection de signaux transitoires. Alors, après ce long, si je puis dire, résumé, qui est important parce que nous allons être amenés à rediscuter dans le cadre de la disparité d'intensité interorale, nous allons être amenés à rediscuter les signaux temporels. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment les sources sonores haute fréquence sont localisées dans le plan horizontal. Alors, je ne reviens pas sur le rôle de la tête. Historiquement, c'est Goldberg, toujours, Smith et Adrian qui, les premiers, ont noté en 1963 que la décharge spontanée des noyaux de l'olive supérieure latérale. Nous avons quitté l'olive supérieure médiane, nous sommes maintenant dans la latérale, est inhibée par une stimulation sonore contralatérale. De même, si maintenant on provoque la décharge de ces neurones, eh bien, on peut l'inhiber par une stimulation contralatérale. Puis, en 1967, Masterton et Diamond formulèrent clairement l'hypothèse de cette dichotomie anatomo-fonctionnelle des circuits qui détectent les délais temporels versus les délais d'intensité. Ils attribuèrent, et nous avons vu la véracité de leur conclusion la semaine passée, à l'olive supérieure médiane, la détection du délai de temps, et à la latérale, la détection d'intensité. Alors, nous passons à, cette fois-ci, un travail publié, lui, en 1968 par Boudreau et Tsuchitani chez le chat. Ils identifièrent des neurones qui déchargent à l'intensité, à la différence d'intensité interorale, ceci avait été déjà fait, mais surtout ils précisèrent les propriétés de ces neurones. Ces neurones, on le savait, par les expériences antérieures, reçoivent du côté ipsilatéral, c'est-à-dire proche de la source sonore, des afférences excitatrices et du côté contralatéral, des afférences inhibitrices. Alors retenez dès maintenant que non seulement ce sont des structures distinctes qui décèlent les délais temporels et les délais d'intensité dans le complexe olivaire supérieur, mais que pour le délai de temps, comme nous l'avons vu, c'est le noyau contralatéral par rapport à la source. En revanche, c'est en ce qui concerne la différence d'intensité, le noyau le plus proche de la source qui fait ce travail de traitement de la différence d'intensité. Alors, comment on peut expliquer simplement cette affaire ? Eh bien, vous avez d'un côté des neurones excitateurs qui vont être excités par une intensité donnée, forte, puisqu'ils sont proches de la source sonore, et du côté contralatéral, des neurones inhibiteurs qui, eux, vont être moins stimulés puisque l'intensité de la source sonore qui leur arrive est moindre. Que fait le détecteur binaural ? Eh bien, il intègre ces signaux positifs et négatifs, si bien que si la source est située dans la position azimutale 0, neurones excitateurs et inhibiteurs vont être stimulés à un même degré au niveau du détecteur de coïncidence, les courants excitateurs vont être annulés en quelque sorte par les courants inhibiteurs. Maintenant, si la source se déplace progressivement jusqu'à l'azimut 90, au fur et à mesure qu'elle se déplace, l'intensité sonore croît du côté excitateur et baisse du côté inhibiteur Par conséquent, le détecteur de cette disparité d'intensité se met à décharger par un gradient qui est croissant plus l'on s'éloigne de l'azimut zéro. Alors, que montrèrent ces auteurs? Eh bien, ils mirent en évidence l'effet suivant, que afférence inhibitrice et excitatrice répondent préférentiellement à une fréquence spécifique. Nous allons voir que leur courbe d'accord en fréquence est voisine. Enfin, ils mettaient en évidence l'existence d'une organisation tonotopique, je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur cette définition, de l'olive supérieure latérale, ce qui leur permettait de conclure que, contrairement à ce qui avait été dit auparavant, le noyau médian du corps trapézoïde devait lui aussi avoir une organisation tonotopique. Pourquoi cela? Vous allez le comprendre aisément. Je vous ai parlé d'afférences inhibitrices venant du côté contralatéral. Eh bien, ces afférences inhibitrices, en réalité, ne deviennent inhibitrices que par le relais qu'elles font dans le noyau médian du corps trapézoïde. Alors, voyons les courbes d'accord en fréquence. D'abord, une notion la façon dont ont été analysées à l'époque les décharges des neurones inhibiteurs. Ceci représente en ordonnée l'inhibition, donc croissante jusqu'à 40, des décharges d'un neurone de l'olive supérieure dont la fréquence caractéristique, je vous ai dit qu'ils avaient une fréquence caractéristique, est ici de 11 kHz. C'est un neurone qui répond préférentiellement à 15 kHz lorsqu'il est excité, disons, du côté ipsilatéral. Eh bien, ce que rapporte, l'intensité d'un son qui va être délivré en contralatéral. Alors, l'expérience consiste donc à avoir un son ipsilatéral de 11 kHz et de délivrer à l'oreille contralatérale, donc du côté inhibiteur, des sons de différentes fréquences et dont on fait varier l'intensité. Ce qui permet de tracer cet ensemble de courbes qui correspondent à des fréquences du côté inhibiteur distinctes et des intensités distinctes. Que voit-on ? L'on voit que l'effet inhibiteur est maximal lorsque, c'est-à-dire obtenu pour un son le plus faible possible, lorsque la stimulation délivrée de façon contralatérale du côté inhibiteur est aussi de 11 kHz. Et vous voyez ce gradient parfait en fréquence. Donc, une inhibition maximale lorsque les neurones inhibiteurs stimulés sont eux aussi accordés à la même fréquence. Alors, on peut aussi représenter les résultats comme ceci, sur cette courbe, où l'on a en ordonnée les décibels et en abscisse les fréquences. Chaque courbe représente l'intensité, c'est la même expérience, du son contralatéral, délivrées à différentes fréquences. Eh bien, ceci n'est rien d'autre qu'un ensemble de courbes, en quelque sorte d'accords en fréquence, qui permet de conclure que les neurones inhibiteurs sont accordés en fréquence comme le sont les neurones activateurs dont vous voyez ici le tracé en pointillé rouge, avec cependant un accord en fréquence moins fin, semble-t-il, que du côté activateur. Alors j'en viens maintenant aux travaux de Maurice Mohr et de Donald Caspary, 1983, dans Journal of Neuroscience, et qui s'interrogèrent sur la nature même de l'inhibition controlatérale. Quelle est-elle? Alors, ils pratiquèrent des applications iontophorétiques, c'est-à-dire qui permettent d'injecter en un point particulier des substances chargées à travers une micropipette de verre, ici au niveau du noyau de l'olive supérieure. Ceci chez le chinchilla. Et dans la pipette, ils mirent un inhibiteur du GABA, la bicuculine, et un inhibiteur de la glycine que nous avons déjà vu, la strychnine. Procédèrent comme suit. Vous voyez ici la pipette donc, qui arrive au niveau de l'olive supérieure latérale. Eh bien, ils observèrent qu'il y avait un effet de la strychnine, c'est-à-dire que si on inhibait l'effet de la strychnine, on avait davantage de décharge au niveau de ces neurones, alors que l'effet du GABA était faible. Donc, au total, traitement ipsilatéral de la différence d'intensité sonore qui arrive à l'une et l'autre oreille avec des afférences excitatrices ici arrivant du côté ipsilatéral et des afférences inhibitrices venant du côté contralatéral. Alors arrêtons-nous un moment sur l'anatomie et l'histologie des structures qui sont mises en jeu dans ce circuit neuronal. Premièrement, l'information venant de la cochlée transite à travers les neurones auditifs et vient ensuite faire synapse. Ces neurones auditifs établissent des synapses avec les neurones du noyau cochléaire. Dans le noyau cochléaire, il existe des cellules qui sont dites en buisson. Au niveau du noyau cochléaire antéro-ventral, ces cellules en buisson sont de deux types. Les cellules en buisson sphérique, qu'indique ce S, et les cellules en buisson globulaire, indiqué par le G du côté contralatéral. Les cellules en buisson sphérique ne sont innervées que par un ou deux neurones auditifs. Les cellules en buisson globulaire reçoivent des afférences venant de 8 à 9 neurones auditifs. Tous ces neurones en buisson ne fournissent que des signaux excitateurs, qu'ils se terminent dans le système olivaire médian ou latéral. Cependant, en ce qui concerne les cellules en buisson sphérique, notées ici par SBC, et les neurones excitateurs sont indiqués pour leur corps cellulaire par ce rond creux et pour leur terminaison axonale par ce triangle creux, tandis que les neurones inhibiteurs le son part pour le corps cellulaire par ce rond plein et l'extrémité axonale par ce triangle plein. Eh bien, les neurones excitateurs, ici, venant du noyau entéro-ventral, les neurones globulaires, les neurones en buisson sphérique, ne se terminent ici que sur l'olive supérieure latérale. Voyons maintenant les cellules en buisson globulaire du côté contralatéral, ici par rapport à la source sonore que j'ai indiquée. Eh bien, eux, ce sont des neurones excitateurs qui vont faire relais dans le noyau médian du corps trapézoïde formant ici les calices de Held. Et ensuite, ils vont envoyer ces neurones du noyau médian du corps trapézoïde des afférences inhibitrices sur les neurones donc de l'olive supérieure latérale qui détecte les différences d'intensité interorale. Alors maintenant, passons à l'olive supérieure latérale elle-même. Elle a cette forme de S avec une carte tonotopique, donc carte de fréquence, détectée de façon préférentielle, qui est figurée ici. L'olive supérieure latérale comporte trois types de cellules. Des cellules principales qui, comme leur dénomination l'indique, sont de loin les plus représentées, 75% de la population générale. Des cellules marginales et des cellules multipolaires. Les cellules principales sont celles qui vont nous intéresser. Eh bien, leur morphologie est très voisine de celle que nous avons vue au niveau de l'olive supérieure médiane dans le système de détection du délai intertemporel la semaine dernière. Il s'agit de neurones bipolaires fusiformes. Une différence, leur mode d'innervation n'est pas du tout semblable à celui des neurones fusiformes de l'olive supérieure médiane. Nous avons vu la semaine passée que, et je l'ai remontré tout à l'heure, que les neurones fusiformes de l'olive supérieure médiane recevaient des afférences qui se distribuaient tantôt sur un type de dendrite d'un côté, tantôt sur l'autre, selon que ces afférences venaient de l'une ou l'autre oreille. Ici, les neurones fusiformes n'ont pas du tout la même innervation afférente. On va distinguer deux types d'innervation afférente, l'une qui se termine sur les dendrites et l'autre sur le corps cellulaire. Alors, maintenant, juste ce que j'aimerais mentionner, c'est que ces neurones donc, qui détectent la différence d'intensité interorale dans l'olive supérieure latérale ont reçu le nom de neurones IE pour indiquer qu'ils répondent à des signaux inhibiteurs et excitateurs. Je vous conseille de garder ce terme qui mettra en mémoire le mode de stimulation de ces neurones. Alors, comment est codée la différence d'intensité dans l'olive supérieure latérale? On le sait, les neurones qui y arrivent sont des neurones haute fréquence. Donc, dans ces neurones, nous l'avons vu lors de l'introduction au niveau de la cochlée, il n'y a pas de synchronisation des potentiels d'action par rapport à l'onde sonore. Pour autant, ces neurones sont-ils dépourvus de toute marque de temporalité? Eh bien, la réponse, je vais vous l'expliquer, c'est non. On sait depuis le début des années 1980 que l'on peut détecter des sons de haute fréquence modulés en amplitude. On peut les il s'agit de sons donc, qui pourraient être totalement uniformes avec des fréquences élevées et qui sont ici modulés en amplitude avec une modulation de fréquence basse. Eh bien, les neurones de l'olive supérieure latérale, on va le voir, traitent aussi ces modulations d'amplitude de basse fréquence venant de neurones qui répondent à une haute fréquence. Alors, on va parler ici d'enveloppe sonore pour, qui traduit cette modulation de l'amplitude avec une basse fréquence. Alors, je vous l'ai dit, oui, pourquoi est-on sûr que l'on détecte ? Eh bien, ça, c'est la psychoacoustique qui nous le dit. Nous percevons, de fait, pour des signaux de haute fréquence, leur modulation en amplitude. Et, de fait, il a été démontré, j'y reviens, que l'olive supérieure latérale est bien sensible au délai temporel qui peut exister selon la localisation de la source sonore dans ces signaux modulés en amplitude de basse fréquence. Si on a affaire à une source qui est à l'azimut 0 degré, nous l'avons vu, dans ces conditions, il n'y a pas de délai temporel, l'intensité de la source arrivant aux deux oreilles est la même, et nos neurones de l'olive supérieure ne vont pas décharger. Pourquoi ? Les signaux d'amplitude basse fréquence vont arriver lorsque la source est azimutale, ils vont arriver de façon en même temps avec donc un signal activateur et inhibiteur qui s'annule. Si maintenant la modulation d'amplitude se fait pour une source qui est située en latéral, eh bien, alors que l'on s'est organisé pour avoir une intensité semblable à chacune des deux oreilles, on va avoir une décharge des neurones de l'olive supérieure latérale. Donc, ceci indique donc que ces détecteurs dont je vous ai parlé comme détecteurs de différence d'intensité sont aussi des détecteurs de délai temporel pour les signaux de basse fréquence qui sont compris, enfin qui viennent moduler les signaux de haute fréquence. Alors tout ceci n'est valable que pour des modulations qui peuvent apparaître effectivement sur les neurones, dont je vous ai déjà indiqué que ces modulations sont limitées en fréquence par la nature même des potentiels d'action, et donc ceci n'est valable que pour des modulations dont la fréquence n'excède pas, grossièrement, on peut dire, 300 Hz. Alors, ceci m'amène à parler donc du délai d'arrivée des sons de haute fréquence à l'olive supérieure latérale. Est-ce que tous les sons, quelle que soit leur fréquence, vont arriver au même moment ? Eh bien, non intrinsèquement, puisque la cochlée elle-même, en raison de son gradient tonotopique, introduit un délai de réponse différent pour les sons hautes et basses fréquences. Parce que les cellules sensorielles qui répondent aux sons hautes fréquences sont situées à la base de la cochlée et celles qui répondent aux sons hautes fréquences à l'apex, rien qu'au niveau de la cochlée, il est introduit un délai dans le traitement des ondes basse fréquence par rapport aux autres, par rapport aux ondes haute fréquence. Une autre étape de ce délai, quelle est-elle? Alors, ce sont des travaux qui ont mis en évidence la chose suivante. Si l'on veut qu'il y ait détection, en quelque sorte traitement, en quelque sorte intégration des informations excitatrices et inhibitrices, nous allons le voir, il faut qu'elles arrivent à peu près au même moment pour que les signaux inhibiteurs viennent supprimer les signaux excitateurs. Donc c'est une question qui a été posée depuis longtemps. Quel est donc le délai neuronal, délai temporel neuronal d'arrivée de l'excitation et de l'inhibition au niveau des noyaux de l'olive supérieure latérale? Eh bien, vous serez peut-être surpris, puisque le trajet est très différent. Voici ici la source sonore, elle est virtuelle parce qu'on est en réalité sur tranche. Répond dans ce cas l'olive supérieure latérale avec un trajet excitateur très bref et un trajet inhibiteur très long. Eh bien, ceci est possible parce qu'en réalité, la vitesse de conduction, la vitesse de l'ensemble du circuit du côté inhibiteur est beaucoup plus rapide que du côté excitateur. En rouge, la réponse de l'olive supérieure latérale en millisecondes. Elle répond après environ ici 3,9 millisecondes. Eh bien, la réponse des neurones de l'olive supérieure latérale aux signaux inhibiteurs, elle, est presque la même en délai de temps puisqu'elle n'est que de 4,1 millisecondes. Bon, alors, ces latences donc ont été mesurées et on voit qu'il n'y a que 0,2 millisecondes d'écart donc, entre l'arrivée des signaux excitateurs et inhibiteurs. Conduction plus rapide au niveau des neurones inhibiteurs contralatéraux. Pourquoi? Eh bien, nous l'avons vu, les neurones inhibiteurs reçoivent des afférences qui viennent des neurones en buisson globulaire. Et ici, ce trajet ici est dû aux neurones en buisson sphérique. Eh bien, si on compare le diamètre de ces neurones, il est beaucoup plus important dans la partie inhibitrice du circuit au niveau des neurones en buisson globulaire qu'au niveau des neurones en buisson sphérique. Par ailleurs, on comprend mal quand même une conduction si rapide. Eh bien, un autre élément est le fait que même s'il existe un relais supplémentaire du côté inhibiteur versus activateur, c'est celui du calice de Held, dont on sait que non seulement c'est une synapse particulièrement sécurisée, mais qu'elle travaille extrêmement vite avec des constantes de temps membranaires extrêmement faibles. Enfin, ce n'est pas tout pour expliquer le fait que, contrairement à ce que dirait à première vue l'histologie, le délai neuronal soit en temps soit quasiment le même. Eh bien, ce n'est pas tout parce que l'olive, les neurones de l'olive supérieure latérale, je vous ai dit, reçoivent des afférences qui se terminent tantôt sur leur dendrite, tantôt sur le corps cellulaire. Eh bien, celles qui se terminent sur les dendrites sont dues aux afférences excitatrices. Celles qui se terminent sur le corps cellulaire sont dues aux afférences inhibitrices. Par conséquent, par rapport au potentiel d'action qui vont être créés, on voit bien que les neurones inhibiteurs, eux, sont beaucoup plus proches de la source des potentiels d'action et vont donc être beaucoup plus efficaces. Alors, je voudrais encore discuter deux autres points. Puisque j'ai introduit le fait que les neurones de l'olive supérieure latérale sont à la fois sensibles au délai de temps et d'intensité, quelle est la part respective de ce traitement dans ces neurones pour localiser la source sonore? Et deuxième élément, la disparité d'intensité interorale fonde la localisation de la source sonore. Mais est-ce que l'intensité sonore elle-même est un paramètre qui est pris en compte dans la genèse des potentiels d'action sur l'olive supérieure latérale? Premier élément, donc, quelle est la part respective de la sensibilité des neurones de l'olive supérieure latérale au délai de temps et d'intensité? Des mesures ont été faites chez le chat par Joris et Yin et qui ont montré qu'il y a bien, comme je vous l'ai dit, sensibilité à la disparité temporelle, mais que la sensibilité à la disparité temporelle contribue de façon moindre, bien moindre, à la décharge de ces neurones de l'olive supérieure latérale que la disparité en intensité. C'est donc, pense-t-on, au relais suivant qui est véritable, c'est-à-dire au niveau du colliculus inférieur, que le paramètre modulation en amplitude qui se traduit par ce délai temporel est davantage pris en considération. Des études ultérieures faites par les mêmes auteurs ont montré que, bien que ce paramètre soit décelé au niveau de la réponse des neurones de l'olive supérieure latérale, eh bien, ce paramètre de modulation en amplitude n'était pas un paramètre dominant pris en considération pour localiser les sources haute fréquence. Alors, je pense que je vais avancer un petit peu encore pour vous dire que on peut utiliser cette, et de fait ceci a été utilisé, cette détection de la disparité temporelle par la modulation en amplitude des ondes haute fréquence pour définir la fenêtre de temps durant laquelle les neurones de l'olive supérieure latérale vont intégrer les signaux excitateurs ipsilatéral et inhibiteurs contralatéral. Sur cette diapositive, en ordonnée, vous avez le nombre de décharges de ces neurones. Il s'agit de potentiel extracellulaire. Et en abscisse, le délai de temps d'une onde modulée en amplitude ou un délai introduit artificiellement pour des réponses, des activations, pardon, qui sont de différentes intensités et qui introduisent des différences inter orale en intensité de différentes valeurs. Eh bien, que voit-on ? Ici, pour l'intensité 55 avec les croix, alors qu'il n'y a pas de différence interorale, eh bien, il y a une détection du paramètre temporel. Alors, ceci permet, lorsque l'on a le temps maximal, plutôt la durée maximale, de ce U observé ici, de cette inhibition, de savoir quel est le temps durant lequel ces signaux activateurs et inhibiteurs vont être intégrés. Eh bien, ici, vous voyez que ce temps, on est chez le chat, est de 300 microsecondes de chaque côté, ce qui indique qu'au total, le temps est de 600 microsecondes. Alors, la base des signaux d'intensité qui parviennent à l'olive supérieure latérale, quelle est-elle ? Eh bien, elle est de deux natures. Premièrement, plus l'intensité est forte, plus le taux de décharge est élevé, donc plus l'olive supérieure latérale va être stimulée. Et puis, d'autre part, dans ce circuit, il y a possibilité pour des délais synaptiques qui, eux, sont modulés par l'intensité. Alors, venons-en maintenant au rôle de la valeur absolue de l'intensité sur la réponse à la disparité d'intensité interorale dans l'olive supérieure latérale. Alors, je vais aller directement à ces travaux de Park et Gross, publiés dans Journal of Neurophysiology en 2004. Dans ces travaux, c'est la réponse de l'olive supérieure latérale qui a été enregistrée pour deux cellules distinctes en A et en B. Ce qui est mesuré dans cet encadré ici, c'est le taux de décharge en fonction de l'intensité délivrée du côté excitateur. Rien d'étonnant, le taux de décharge augmente avec l'excitation. Et les trois petites flèches indiquent des intensités sonores distinctes, 30 décibels, 20 et 10. L'expérience suivante va consister à mesurer toujours cette décharge des neurones de l'olive supérieure en fonction, cette fois-ci, en abscisse, de la disparité d'intensité interorale, et les trois courbes représentent le fait que pour une même disparité d'intensité interorale, on a fait varier l'intensité des signaux excitateurs. Eh bien, vous le voyez, les courbes ne sont pas superposables, ni dans leur valeur absolue, ni dans leur forme, et elles indiquent donc que la décharge des neurones de l'olive supérieure latérale répond non seulement à la disparité d'intensité sonore, mais aussi intègre la valeur absolue de l'intensité sonore. Alors, nous avons vu donc deux paramètres intégrés en plus du délai de la disparité d'intensité sonore au niveau de l'olive supérieure latérale, le paramètre d'intensité et le paramètre temporel lié à la modulation de fréquence, modulation basse fréquence en amplitude des sons de haute fréquence. Eh bien, comment se traduit l'existence de ces deux paramètres? Eh bien, on peut le voir de la façon suivante. Ce sont des travaux qui ont été effectués aussi bien chez la chauve-souris que chez le chat. Si l'on introduit un délai temporel au niveau de la stimulation contralatérale inhibitrice, de fait, il n'y a plus, on baisse ou on annule la décharge des neurones de l'olive supérieure. Ceci correspond à tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que signaux excitateurs et inhibiteurs sont intégrés. Et maintenant, comment peut-on restaurer une inhibition de ces neurones par ces neurones inhibiteurs? Je pense que vous pouvez le deviner. Eh bien, il suffit d'augmenter le son délivré du côté contralatéral. Alors, maintenant, j'aimerais dire un mot d'une étude qui va peut-être mettre plus à l'aise les biologistes moléculaires de l'audience et qui concerne un travail publié cette année, en 2008, donc dans Neurones, dont le premier auteur est Magnusson, le dernier Ursula Kaur, et qui a été effectué dans le laboratoire de Bénédicte Gross. Il s'agit toujours de voir comment ces fameux neurones de l'olive supérieure répondent. Pour l'instant, je vous ai mis en place des inhibitions afférentes, dont je vous dis maintenant qu'elles sont glutamatergiques, ipsilatérales, et des inhibitions contralatérales glycinergiques. Eh bien, est-ce que l'ensemble peut être sensible au GABA? Ceci a été testé chez la gerbille dans un premier temps et in vivo. Ce qui a été fait est l'expérience suivante. Il s'agit de voir si le GABA modifie le taux de décharge des neurones de l'olive supérieure latérale lors d'une stimulation par un son pur. Premier type d'expérience en A, on va enregistrer les potentiels d'action pour une différence d'intensité interorale indiqué par ILD qui varie sur 100 millisecondes. En noir, le contrôle, où vous voyez un certain nombre de potentiels d'action sous la forme de ces points. Maintenant, on va introduire localement du baclofène. Alors, le baclofène est un agoniste du récepteur du GABA de type métabotropique, c'est-à-dire couplé aux protéines G, récepteur de type B. Que se passe-t-il alors? Réponse ici. On voit que les potentiels d'action sont moins nombreux, et en particulier pour des différences d'intensité interorale faibles. En B, une autre représentation des résultats, avec dans l'encadré, le en petit, donc le nombre de décharges en fonction de la différence d'intensité interorale, nombre de décharges en ordonnée, en abscisse, différence d'intensité interorale, courbe noire, courbe contrôle, courbe rouge en présence de baclofène, donc un activateur des récepteurs du GABA. Eh bien, que voit-on ? Le taux de décharge est plus faible, comme le montre la courbe rouge. Et lorsque l'on normalise les résultats, comme ici, on voit un glissement de la courbe vers des différences d'intensité qui miment en quelque sorte, qui sont plus grandes et qui représentent en fait la courbe que l'on aurait si, au lieu de l'ITD de départ, on baissait l'intensité sonore du côté inhibiteur. C'est-à-dire que maintenant, on répond à une ITD, une différence d'intensité interorale, ILD, pardon, level, beaucoup plus large. Donc, et je passe ce qu'il y a en contrôle latéral ici, c'est une expérience en miroir, c'est-à-dire qui utilise des antagonistes du récepteur GABA et on a l'effet inverse. Donc, on voit qu'il y a bien un rôle du GABA sur le taux de décharge des neurones de l'olive supérieure latérale. Et que cet effet, donc effet d'inhibition, indique donc que le GABA, puisqu'on l'a avec l'agoniste, à l'état normal, inhibe les décharges de l'olive supérieure latérale. Alors, je vais aller un peu rapidement, quitte à revenir au cours prochain, pour vous dire que les questions qui se sont posées sont: est-ce que le GABA agit sur les courants excitateurs postsynaptiques et les courants inhibiteurs postsynaptiques? Vous avez votre neurone de l'olive supérieure latérale qui répond du côté excitateur ipsilatéral et qui est inhibé. Donc, du côté contralatéral, ces décharges présynaptiques vont créer des potentiels et des courants excitateurs postsynaptiques du côté ipsilatéral et inhibiteurs du côté contralatéral. Eh bien, oui, on peut montrer que le baclofène, s'il est ajouté, inhibe ces courants excitateurs et inhibiteurs. Donc, vraisemblablement, il agit sur les deux types de neurones. Pourquoi sur les neurones, vous me direz, et pourquoi pas sur les neurones de l'olive supérieure latérale elle-même, sur le détecteur lui-même? Eh bien, si maintenant on met le baclofène précisément sur les neurones de l'olive supérieure latérale, on modifie en rien ses décharges. Alors, pour faire un pas de plus, la question qui se pose est: quelle est l'origine de ce GABA? Nous avons vu ses cibles, neurones excitateurs, neurones inhibiteurs, avec un effet plus net du côté excitateur que du côté inhibiteur. Eh bien, quelle est l'origine de ce GABA? Ce qui a été fait est une expérience classique, c'est une expérience astucieuse qui consiste à, en quelque sorte, une expérience de conditionnement. Dans cette expérience de conditionnement, on applique une préstimulation aux neurones de l'olive supérieure latérale. Puis ensuite de ça, on vient appliquer le signal excitateur. Que se passe-t-il ? Ici, donc, le signal, ici, donc, ça va être, pardon, on va appliquer l'agoniste des récepteurs du GABA. Ici, donc, la réponse normale, sans agoniste. Eh bien, si l'on applique... Non, pardon, d'abord, excusez-moi, le graphe noir et blanc. Ici, sans conditionnement, le contrôle, et avec conditionnement, on voit donc que l'amplitude des courants postsynaptiques excitateurs dont il est question ici baisse. En première approximation, on peut dire que ce que fait le conditionnement, c'est en quelque sorte de libérer une substance inhibitrice qui vient baisser les courants excitateurs. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la nature de cet inhibiteur ? Eh bien, si on fait la même expérience en présence d'un antagoniste du récepteur GABA-B, on n'observe plus l'effet. Donc, ceci signifie, on peut traduire les choses de la façon suivante. Le conditionnement libère du GABA. Et ce GABA va en retour inhiber le potentiel excitateur postsynaptique de ces neurones. Donc, ce GABA, et je vais arrêter là, va être, on verra la prochaine fois, va se fixer sur le récepteur métabotropique, les récepteurs métabotropiques présynaptiques des neurones excitateurs et inhibiteurs, et va en modifier les décharges. Donc, je reviendrai sur la fin de cet article. Ceci pour situer le fait que il existe donc un processus dont nous verrons qui s'apparente quasiment à un processus d'adaptation par un rétrocontrôle que le neurone de l'olive supérieure latérale exerce sur leur propre activité via le GABA qu'elles libèrent lorsqu'elles sont suffisamment stimulées et qui va inhiber les taux de décharge des neurotransmetteurs, le glutamate pour les neurones excitateurs et la glycine pour les neurones inhibiteurs. Voici donc le message qui vient ponctuer en quelque sorte le message relativement simpliste qui était jusqu'à présent celui de la littérature. Glutamate, excitateur, inhibiteur, glycinergique et donc un détecteur de la différence d'intensité, eh bien, il faut y ajouter un mécanisme de rétrocontrôle dont je discuterai, rétrocontrôle qui permet aux neurones de l'olive supérieure latérale de contrôler leur propre activité. Merci de votre attention. On aura 10 minutes de pause avant l'exposé de Daniel Presnisser.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.